IDFM Radio Anguin, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 13h passé de 2 minutes, c'est Franck avec vous comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois pour l'émission À toi les étoiles qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie. Pour ce mois d'avril 2006, eh bien c'est vrai, c'est les vacances, donc on est tous un peu partis en vacances et puis c'est pas vraiment facile d'avoir un invité. Donc aujourd'hui, eh bien je serai seul sans invité comme ça m'est déjà arrivé des fois, ce qui n'empêchera pas bien sûr de parler sur un sujet d'astronomie. Et aujourd'hui nous allons nous poser la question: sommes-nous seuls dans l'univers? Vaste question, c'est vrai que tout le monde se la pose un peu. Est-ce que nous sommes vraiment les seuls êtres vivants dans le système solaire, dans le cosmos, ou est-ce que quelque part dans le système solaire ou même à des millions de kilomètres de là, et existe-t-il de la vie, des gens comme vous et moi, ou des gens ou des formes de vie, à savoir des bactéries, parce que rien que des bactéries, eh bien, c'est une forme de vie. Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui dans cette émission À toi les étoiles. Et cette émission se partagera en deux parties. Donc, tout d'abord, pour la première demi-heure de cette émission, eh bien, je tenterai de vous donner quelques éléments de réponse, les dernières nouveautés, les dernières réponses qu'on a sur ce sujet. Et puis, en deuxième partie, je vous proposerai d'écouter une émission que j'avais faite le 1er juillet 1999 sur une autre radio avant que je sois sur IDFM, où je faisais déjà une émission qui consacrait à l'astronomie qui s'appelait À toi les étoiles, Voyage à travers les étoiles, pardon. Et j'avais reçu donc des invités prestigieux. Ce sera donc en deuxième partie de cette émission. Et pour l'instant, eh bien, toute première question, donc, sommes-nous seuls dans l'univers? Vaste question. Eh bien, il faut savoir déjà que les Grecs, dont Pythagore, pensaient que sur la Lune, eh bien, eux pensaient qu'on n'était pas seul dans l'univers, puisque eux pensaient que sur la Lune, il résidait des Luniens. Au début du siècle dernier, vous voyez, eh bien, les hommes pensaient que Vénus, Mars et Jupiter étaient habités. Et oui, en effet. Avec les différentes sondes qui ont été lancées pour observer de plus près les planètes, la preuve a été faite maintenant qu'il n'y a pas de vie sur celle-ci. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. En effet, il faut savoir que l'univers est quand même immense et on ne connaît que 10% de l'univers. Et donc, il y a 90% qui reste un véritable mystère pour nous. Et ça paraît vraiment improbable qu'il n'existe pas de vie ailleurs dans l'univers. Et donc, ça, c'est une recherche que les scientifiques s'attellent depuis plusieurs années. Donc, les scientifiques, justement, ont d'abord cherché par quel procédé la vie est apparue sur Terre. Parce que comme ça, ils vont chercher dans l'univers, eh bien, si la vie a pu apparaître par le même procédé ailleurs. Et l'hypothèse la plus vraisemblable serait qu'elle aurait été apportée de l'espace par des météorites contenant des molécules organiques avec un apport d'ADN ou autres molécules informelles. Bon, là, ça devient un peu compliqué, mais bon, ce serait en fait sur ces météorites qui auraient des molécules organiques, ce serait les briques de la vie, et ce serait grâce à ça, en fait, que la vie serait apparue. Donc ces molécules auraient tout d'abord donné naissance à de la végétation qui aurait ensuite donné naissance à des êtres vivants, tout d'abord des animaux préhistoriques qui auraient évolué pour ensuite donner naissance à l'homme préhistorique. Ces molécules, donc, comme je l'ai dit, auraient évolué pour donner naissance à la vie. L'univers est immense, il est inconcevable que dans cette immensité cosmique, les ingrédients nécessaires au développement de la vie ne se soient pas renouvelés ailleurs dans le cosmos, tellement il est immense. Donc, comme je vous disais en plus, qu'on ne connaît que 10% de l'univers, il y a 90% qui pour nous est un véritable mystère, donc ça c'est vraiment intéressant. Chaque objet, et puis en plus il faut savoir que chaque objet dégage des ondes. Nous-mêmes, sans le savoir, nous en dégageons des ondes. Par ce rayonnement, eh bien, l'activité de la Terre est détectable depuis l'espace. Il serait donc de même pour une civilisation extraterrestre. Grâce à de gigantesques antennes paraboles, les radioastronomes tentent de détecter depuis maintenant plus de 40 ans les signaux d'une civilisation hors de notre système solaire. Et au début des années 1980, fut créé le SETI, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Search for Extraterrestre Industrial Intelligence, excusez mon accent anglais, qui est plus que médiocre, et qui cherche donc à capter des signaux émis par des civilisations techniquement plus avancées que la nôtre. Alors on en avait parlé, puisque c'est vrai que ce thème « Sommes-nous seuls dans l'univers ?», on a déjà abordé succinctement ce sujet dans de précédentes émissions avec des invités, et le programme SETI, on en avait parlé par exemple lors de l'émission du mois de mars avec notre invité Didier Wanyang. Donc le SETI propose un programme, c'est-à-dire avec vos ordinateurs personnels, en téléchargeant un petit logiciel sur votre ordinateur, et bien par exemple lorsque votre économiseur d'écran se met en route, et bien là il travaille pour le programme SETI et fait et analyse donc des signaux reçus, puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de signaux et il faudra des années et des années pour tout déchiffrer. Donc c'est pour ça qu'on appelle à la contribution des internautes. D'après le SETI, la vie est un processus naturel de l'évolution du cosmos et l'intelligence humaine n'est pas le summum de ce que le cosmos a pu produire. Et ça vexe plusieurs personnes. Mais le problème est qu'il existe des milliards de fréquences alliant des rayons gamma aux ondes radio, en passant par les rayons X. Donc les techniques actuelles permettent d'écouter simultanément plus d'un milliard de canaux, mais c'est une goutte dans un océan par rapport aux centaines de milliards de fréquences qui existent dans l'univers. Alors les radioastronomes se sont concentrés sur une bande autour des 1420 MHz. Alors pour vous ça veut peut-être rien dire. En fait, tout ce qui est composé d'hydrogène, donc qui contient de l'eau, émet naturellement des signaux de cette fréquence. Donc avec en concentrant une recherche sur la bande autour des 1420 MHz, eh bien on pourrait trouver de l'eau dans l'univers. Et d'ailleurs, grâce à ces recherches, le SETI a trouvé qu'il y a de l'eau partout dans l'univers. On pensait qu'il y en avait je parle de molécules d'eau, hein, attention, on pensait qu'il y en avait seulement sur Terre, et bien finalement on s'en aperçoit qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, des molécules d'air, et en plus c'est abondant dans l'univers. Donc on le sait maintenant, là où il y a de l'eau, la vie pourrait s'y développer. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a forcément de la vie là où il y a de l'eau. Donc ça, c'est des choses à aller voir de plus près. Hormis la recherche d'une activité extraterrestre, eh bien il faut savoir que les radioastronomes envoient des messages dans le cosmos en espérant qu'une civilisation la captera. Ainsi, vers la fin des années 1970, fut envoyée les sondes Voyager et Pioneer. Ces sondes avaient pour objectif de photographier les planètes. Aujourd'hui, elles continuent leur voyage en dehors du système solaire, avec à leur bord un vidéodisque comportant des messages sur notre civilisation. Donc, en espérant qu'un jour, on ne sait jamais, peut-être qu'une civilisation lointaine trouvera notre sonde et trouvera donc ce message, ce vidéodisque comportant les messages de notre civilisation. Au jour d'aujourd'hui, aucune vie extraterrestre n'a été trouvée. Je dis bien au jour d'aujourd'hui. Mais les scientifiques ont fait des découvertes intéressantes qui pourraient prouver que nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est très intéressant. On va développer plus en détail tout à l'heure ce sujet. Et pour l'instant, eh bien, je vous propose de faire une première pause musicale avec un titre choisi dans la banque de données de la radio, qui est très complète. D'ailleurs, il y a plusieurs titres. On a énormément de choix et on va prendre les Pet Shop Boys avec I'm Wish Stupid. C'est tout de suite sur IDFM dans cette émission À toi les étoiles. Les Pet Shop Boys donc à l'instant sur IDFM avec I'm Wish Stupid sur IDFM donc dans cette émission À toi les étoiles. On continue donc sur ce sujet, sommes-nous seuls dans l'univers, et je voudrais réagir donc à un message parvenu sur le site internet de Rachel. On lui fait un gros bisou, malheureusement il n'y a pas de dédicace dans cette émission, voilà, mais sinon on va lui dire qu'on a bien reçu le message et donc on lui fait un gros bisou. On continue dans cette émission donc d'À toi les étoiles, toujours sur ce sujet, sommes-nous seuls dans l'univers. Alors il faut savoir qu'en 1969 une météorite tombe sur sur Murchison en Australie. Et après analyse, on y découvre 70 acides aminés, dont 8 sont présents dans les protéines terriennes. Donc cette découverte est très intéressante puisqu'elle vient renforcer le fait que la vie aurait pu être apportée sur la Terre. Au début des années 1980, la sonde Voyager 1 atteint Saturne et observe pour la première fois de près un de ses satellites Titan. Son atmosphère riche en composés chimiques pourrait ressembler à l'atmosphère primitive de la Terre. Alors, après, on a eu beaucoup plus d'informations, puisque vous le savez, on a envoyé une sonde sur Titan, hein, c'était la sonde Huygens qui a envoyé donc un module sur Titan et donc a analysé son sol. On a fait des découvertes très intéressantes et effectivement, eh bien, on pense effectivement que ça pourrait ressembler à l'atmosphère primitive de la Terre, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre et d'informations à décortiquer et donc on en saura sûrement plus les années à venir. En 1995, il y a 11 ans, donc la sonde Galileo livre des images extrêmement détaillées des satellites de Jupiter dont elle a approché, et notamment concernant Io, qui a une activité volcanique inattendue. Et oui, puisque effectivement, il y a encore des planètes qu'on peut appeler actives. Ce qu'on appelle actives, par exemple, la Terre est une planète active puisqu'elle a un volcanisme. Mars, en revanche, est une planète morte puisqu'il n'y a plus d'activité volcanique. En revanche, vous pouvez justement, là, comme je vous disais, effectivement, il y a des satellites qui ont des activités volcaniques, donc qui sont actifs. Et il y a aussi une découverte intéressante qui a été faite sur le satellite Europe, satellite de Jupiter, dont la surface gelée cache peut-être un océan. Et là, on s'y intéresse de près, puisque effectivement, s'il y a un océan, peut-être que dans cette eau, eh bien, il y a peut-être une forme de vie, peut-être des poissons, hein, ou seulement des matières organiques, qui sont donc une forme de vie primitive, certes, mais qui est quand même une forme de vie. Alors, intéressant, justement, puisque auparavant, quand les astronomes ont envoyé les premières sondes et qu'elles ont été voir de près donc les planètes, on s'est dit non, ça c'est sûr, maintenant il n'y a pas de vie dans le système solaire, donc maintenant on va aller voir plus loin. Et puis finalement, en approfondissant les recherches, eh bien on s'est rendu compte, par exemple en 1998, une équipe de scientifiques s'est rendue en Antarctique et ils ont foré la glace jusqu'à 3600 mètres de profondeur et là ils ont découvert des colonies de bactéries vivantes, bien qu'elles soient complètement isolées de l'atmosphère. Donc, c'est encore une preuve que la vie est possible même dans des conditions parfois extrêmes, parce que justement avant, il y a quelques années encore, il y a une dizaine d'années, on vous aurait dit, si vous avez demandé à un scientifique s'il y avait de la vie possible dans la glace à plus de 3 km de profondeur, on vous aurait répondu c'est sûr et certain, non. Et bien vous voyez maintenant, eh bien, on a trouvé des formes de vie dans des endroits où on ne pensait pas, et ça apporte justement des informations supplémentaires qui fait que finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher à des milliards et des milliards de kilomètres pour voir s'il y a de la vie ailleurs, et tout simplement chercher dans notre banlieue, dans notre système solaire. Qui sait, il y a peut-être de la vie. Et justement, dans les années à venir, on va encore aller voir de plus près, on va s'y intéresser, et peut-être qu'on découvrira, je le souhaite, des choses très intéressantes. Il y a aussi la planète Mars qui intéresse beaucoup les astronomes. Entre 1965 et 1976, 6 missions automatiques ont permis d'étudier de plus près cette planète. On a découvert à sa surface des canyons qui pourraient alors avoir été creusés par l'eau. En juillet 1997, il y a eu la sonde Pathfinder qui s'est posée sur son sol avec à son bord le robot Sojourner. D'après les analyses du sol effectuées par celui-ci, il y aurait bien eu de l'eau liquide sur Mars. Et justement, avec les derniers robots qui ont atterri il y a plus d'un an maintenant, c'est Spirit et Opportunity, on a quasiment la preuve qu'effectivement il y a eu des écoulements d'eau sur la planète Mars, donc ce qui est encore une information très importante, puisque une forme de vie aurait très bien pu s'y développer, d'autant plus que Mars possède une atmosphère. Et ce qui intéresse beaucoup les astronomes maintenant, c'est de sonder le sous-sol de Mars, puisque peut-être que sous la surface de Mars, il existe des rivières souterraines ou des lacs souterrains, Et peut-être que dans ce lac souterrain pourrait aussi y avoir une forme de vie présente. Encore des choses intéressantes à aller voir. En 1996, des analyses effectuées sur une météorite martienne découverte dans l'Antarctique révèlent la présence de micro-organismes et de molécules organiques fossilisées. Alors là, c'était l'euphorie, puisque là on a dit, maintenant c'est sûr, c'est certain, il y a eu de la vie sur Mars, puisqu'on a trouvé des formes de vie fossilisées sur cette fameuse météorite. Et finalement, en approfondissant les analyses, eh bien, il a été démontré que ces micro-organismes sont en fait d'origine terrienne. En fait, ces micro-organismes se sont venus se fossiliser sur cette météorite après qu'elle est atterrie sur Terre. Donc c'est une déception, mais pour les astronomes. Mais bon, c'est pas, comme on dit, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On va continuer donc dans cette émission encore sur quelques mots, toujours dans cette recherche de vie extraterrestre. Et je vous rappelle que au-delà, ensuite, en deuxième partie, aux environs de 13h30, eh bien on écoutera une émission que j'avais faite en 1999 avec des invités sur une ancienne radio avant que je n'arrive sur IDF. Mais avant, continuer donc ces informations de recherche de vie extraterrestre. Et l'événement le plus important fut la découverte à la fin de 1995 d'une planète en dehors de notre système solaire. Il y a de 11 ans de cela, donc, par des astronomes suisses, Michel Mayer et Didier Queloz. Celle-ci orbite autour de l'étoile 51 Pegasi. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de planètes extrasolaires qui ont été découvertes. Malheureusement, aucune n'est propice au développement de la vie, puisque soit elles sont trop près de leur étoile pour que la vie puisse s'y développer telle qu'on la conçoit aujourd'hui, ou soit alors trop éloignée. Donc, mais en tout cas, c'est quand même des événements importants, et c'est des choses à vérifier et à traiter. Donc, et en effet, si ces planètes se trouvent à une distance légèrement inférieure à la distance Terre-Soleil, eh bien, il faudrait que ces planètes soient à une distance légèrement inférieure à la distance Terre-Soleil et qu'elles n'excèdent pas celle de la distance Soleil-Mars pour que des organismes vivants puissent s'y développer et qu'il y ait aussi une atmosphère. Donc ça, c'est à voir et à approfondir dans les années à venir, puisqu'il faut savoir quand même qu'on fait une progression spectaculaire dans la recherche de vie extraterrestre et notamment dans les instruments. Lorsque aujourd'hui on dit que le fameux télescope spatial qui est au-dessus de nos têtes, le télescope spatial Hubble, on dit qu'il est obsolète puisqu'il est trop vieux, il a du matériel qui est trop vieux, enfin quoi qu'il avait été quand même rénové il y a quelques années de cela, mais il faut savoir qu'à l'époque lorsqu'il a été lancé, c'était du matériel vraiment à la pointe de la technologie high-tech. Donc on fait une avancée extraordinaire dans la progression de recherche de vie et ce n'est que le début, ça ne fait que commencer. Donc c'est pour ça que les années à venir vont être vraiment passionnantes. On va marquer encore une pause musicale, une deuxième pause musicale avant de continuer dans cette émission d'À toi les étoiles. Et je vous parlerai encore justement de cette recherche de vie. Et puis ensuite, en deuxième partie, nous écouterons donc cette émission où je recevais notamment comme invité, il y avait Philippe Lognonnet, Jean Henneman, le regretté Jean Henneman, le frère de Richard Henneman. Richard Henneman qui est le président de l'association Planète Mars, qui s'intéresse justement lui aussi à la recherche de vie extraterrestre. Et Jean Henneman était spécialisé justement dans cette recherche de vie extraterrestre. Donc vous verrez que dans cette émission il y aura des informations importantes, et c'était bien que cette émission date de 6 ans, il y aura vraiment des choses passionnantes. Pour l'instant, on écoute un morceau de musique avec Cormeille, Le bon Dieu est une femme. C'est tout de suite sur IDFM, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Alors désolé pour les inconditionnels de Cormeille, je suis obligé d'écourter son morceau puisque après nous aurons plus le temps de diffuser donc cette émission que j'avais faite il y a de cela 6 ans. Ainsi donc se termine cette première partie d'émission. Nous allons maintenant écouter une deuxième partie, donc une émission que j'avais faite le 1er juillet 1999 sur une radio, une autre autre radio avant que je n'arrive sur IDFM, je recevais donc Philippe Lognonnet de l'Institut physique du Globe de Paris, Jean-Marie Delbos de l'aérospatiale des Mureaux qui s'appelle aujourd'hui ADS, Joël Minois de la Société astronomique de France, Dominique Le Sieur de l'Association française d'astronomie, et puis donc comme j'ai dit, Jean Hellman qui faisait partie donc de l'Observatoire de Paris. Voilà, j'ai un petit peu du mal. On va écouter donc cette émission où je posais justement la première question à mes invités. Sans plus tarder, avant de vous poser la première question, monsieur Hellman, j'ai été au collège de Bréval, collège Lénifard à Bréval, et puis j'ai questionné des adolescents qui se trouvent en 6e, 5e, et je leur ai posé la question, croyez-vous aux extraterrestres? On écoute tout de suite.
Pas aux extraterrestres, j'ai entendu des gens parler de ça, des amis.
Non, parce que ça n'a jamais été prouvé qu'ils existent. Et j'ai jamais vu quelque chose qui prouve que ça existe.
Ouais, j'y crois parce que il doit y avoir des planètes encore qu'on n'a pas encore identifiées. Et puis là-bas, il doit y avoir une vie pareille que la nôtre.
Non, parce qu'on n'est pas sûr que ça existe.
Oui, je pense que sinon, on n'aurait pas pu les imaginer comme ils sont. Et comme on aurait pu trouver des traces à quoi serviraient les autres planètes.
Non, vous existez quand?
Oui, parce que je vois pas pourquoi il y aurait des humains sur la Terre, il n'y en aurait pas sur les autres planètes.
Voilà, donc je sais pas si vous voulez réagir.
Si, parce que toutes les réponses que ces jeunes dans les 12-15 ans ou quoi?
Oui,
oui, elles sont très très bonnes. Mm-hmm. Ils ne font pas la confusion abominable avec les ovnis. Qui est catastrophique, c'est d'ailleurs la confusion entre la recherche de vie dans le cosmos, entreprise par les scientifiques, les ingénieurs, etc., est complètement mélangée à toutes ces histoires d'OVNI à haut niveau. En particulier, les membres du Congrès américain se sont basés sur des faux rapports de ce genre-là pour couper les crédits au plus gros programme de recherche de signaux artificiels qui était à la NASA à l'époque. Donc, je suis très content de les avoir entendus dans cette veine.
D'accord. Alors, justement, là, on s'intéresse à la recherche de vie extraterrestre, mais est-ce qu'on a vraiment trouvé une forme de vie extraterrestre aujourd'hui ?
Non. Non, on avait parlé la dernière fois de fossiles éventuels dans une météorite qui provenait de la planète Mars, mais c'est pas sûr du tout pour l'instant, c'est possible, mais non, on n'a pas de traces. On a, alors, bon, attention, je ne sais pas par où commencer. Ok, bon, des traces, la vie c'est complexe, hein. ça part d'une chimie organique très compliquée qui s'est développée en des centaines de millions d'années dans les parties liquides de la Terre primitive. Ça a fini par donner des cellules qui étaient capables de se reproduire elles-mêmes et d'avoir un code interne pour gérer toutes ces opérations. Ça aboutit aux premières cellules, etc., puis aux animaux, et puis à nous en définitive, et à l'intelligence. Donc, pour l'instant, on a des fortes indications sur les premiers stages, parce qu'on a découvert des molécules organiques d'intérêt biologique, c'est-à-dire d'intérêt pour l'apparition de la vie éventuelle ailleurs. On a découvert dans l'espace interstellaire, dans les comètes, etc. Et d'un autre côté, on a découvert depuis quelques années seulement, et ça c'est un énorme progrès, l'existence de planètes et même de systèmes planétaires autour d'étoiles ressemblant au Soleil dans l'espace interstellaire. Donc ça va m'amener à tout de suite aller vers la question la plus importante. Sommes-nous seuls, hein, c'est ça. Bon, s'il y a des molécules organiques ailleurs, on se sentirait quand même seul un peu. Hein? Donc, en fait, on se pose la question de savoir si ailleurs, il y a des gens, des choses, des je sais pas quoi, qui sont intelligents. Donc, c'est la recherche d'intelligence extraterrestre. Alors, c'est basé sur... C'est une recherche scientifique, comme je disais, sérieuse, et comme toutes ces entreprises sérieuses dans ce domaine, on se base sur des hypothèses de travail initiales qui ne soient pas trop farfelues. Alors, il n'y en a pas tellement pour la question de recherche d'intelligence ailleurs dans le cosmos. La première hypothèse, ça consiste à dire que l'apparition de la vie et de l'intelligence sur Terre est le résultat d'une évolution naturelle de processus physiques du cosmos. Il n'y a pas eu un coup de baguette magique quelque part. La deuxième, ça consiste à dire que ce qui est arrivé sur Terre a pu arriver ailleurs. Bon, des ailleurs, maintenant, on sait qu'il y en a des planètes ailleurs. Et alors, la troisième hypothèse, celle-là, elle fait mal à beaucoup de gens, c'est de supposer que l'intelligence humaine n'est pas le summum, le nec plus ultra de ce que le cosmos a pu produire. Alors ça, ça déplaît énormément à beaucoup de monde, et en particulier aux hommes, aux humains, aux hommes masculins. Tandis que les femmes sont beaucoup plus réceptrices à ça, et c'est pour ça que cette recherche SETI est très mal considérée en général. Même dans des milieux évolués, comme l'Observatoire de Paris, Meudon, c'est très mal reçu. Alors, quand on met ces trois hypothèses bout à bout, personne ne peut dire qu'elles sont complètement débiles, on peut arriver à une conclusion qui serait que dans le cosmos pourraient exister des civilisations avancées. Alors, en particulier, nous, on cherche, en tant que radioastronome, on cherche à voir si on peut capter des émissions électromagnétiques, des ondes radio qui proviendraient, pas forcément d'une intelligence là-bas qui nous enverrait des signaux, mais de technologies très avancées. Une technologie très avancée, par les lois de la physique, doit émettre des ondes. Je donne toujours l'exemple d'un moteur de voiture. Il sert à faire avancer la voiture, mais il chauffe énormément, il crée de l'infrarouge, et ça ne sert à rien. Mais cet infrarouge s'en va, et c'est un moyen de détecter la présence d'une voiture, par le bruit aussi. Donc, on s'est lancé là-dedans depuis 40 ans maintenant, et pour l'instant, on n'a rien détecté. Bon. On en est là.
On en est là, donc on n'a pas encore détecté vraiment de vie extraterrestre, mais on a donc prouvé qu'il n'est pas impossible qu'il n'en existe quand même. Hein.
Pas prouvé, on pense que c'est une hypothèse de travail raisonnable et que ça vaut la peine de tenter d'en avoir la preuve ou l'opposé d'une preuve.
D'accord. Monsieur Le Sieur, vous vouliez intervenir ?
Oui, juste pour dire, bon, c'est le dire d'une manière peut-être légèrement différente, mais c'est la même chose. Ça consiste tout simplement à se dire, voilà, les lois physiques qui existent sur la Terre sont valables dans l'univers tout entier. Alors, on constate sur Terre, et nous y sommes, et donc par conséquent, là, c'est flagrant, et on ne peut pas le dire autrement, la vie existe. Et la vie est sortie du minéral et l'évolution a abouti à cette richesse extraordinaire qu'est la vie. Alors la question que se posent évidemment tous les astronomes devant ça, c'est tout de suite de se dire, bon, il est clair qu'à partir du moment où on a de fortes raisons de penser que les lois de la physique sont valables dans l'univers tout entier, les développements peuvent aller jusque là, ailleurs que sur la Terre.
Mmh. Oui, même plus loin encore.
D'accord. Oui. Je vois Monsieur Lognonnet, vous vouliez entendre.
Oui, en fait, je pense que le problème fondamental dans cette idée de recherche de la vie est de définir un petit peu l'horizon au-delà duquel on n'est pas capable techniquement de détecter un signal intelligent, disons. Et là, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a des impondérables. Disons, il y a quelques dizaines d'années, on pouvait imaginer qu'il suffisait qu'une planète soit à la distance, une distance comparable de celle de la Terre, de son Soleil, pour que automatiquement, en fait, la vie existe plus ou moins sur cette planète. Mais entre-temps, en fait, on commence à s'apercevoir qu'il y a des nouveaux facteurs. Par exemple, la Terre a une lune très grosse. La lune de la Terre est la plus grosse de toutes les lunes, en fait, quasiment du système solaire. Il n'y a pas d'autres planètes qui aient des lunes aussi grosses proportionnellement à leur taille. Et en fait, on sait maintenant que cette lune-là est le résultat d'une collision majeure entre une planète qui avait à peu près la taille de Mars et puis une Terre qui était déjà assez formée. Et que d'un point de vue de probabilité, cette collision majeure, en fait, est très très faible. Du moins, la probabilité est très faible. Or, cette lune a un rôle fondamental dans la mesure où elle stabilise la rotation de la Terre et elle permet finalement à la température de la Terre d'être relativement agréable. Ça, c'est le premier fait. Par exemple, maintenant, on s'aperçoit également que sur Terre, il y a de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, c'est quelque chose qui a emmagasiné dans les profondeurs de la Terre énormément de carbone, en particulier en fait de gaz carbonique. Et tout ce gaz carbonique est parti de l'atmosphère. Et le résultat, c'est que par exemple, aujourd'hui sur Terre, il y a autant de gaz carbonique que sur Vénus. Mais sur Terre, il est sous forme de calcaire, en gros. Le résultat, c'est que sur Vénus, en fait, on a une température à la surface qui est de plus de 500 degrés, donc incompatible avec la vie. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des éléments probabilistes, je dirais, autres que juste la position d'une planète à une distance du Soleil, qui font que la distance à laquelle on pourrait imaginer trouver une forme de vie peut varier considérablement.
Mmh. Oui,
Monsieur Edman,
c'est sûr. Tout ça, c'est sûr. C'est pas garanti qu'une planète qui serait à bonne distance, etc., aurait la vie. Mais d'un autre côté, il y a tellement de planètes dans le cosmos qu'on peut se dire, quand même, ça peut arriver. On ne dit pas que ça a arrivé. On dit que ça peut arriver. Pour savoir si c'est oui ou non, on tente d'en détecter des effets. Voilà. Mais à ce point de vue-là, il y a des tas de conditions scabreuses pour la vie sur la Terre. Hein. On a failli crever tous plusieurs fois, ça c'est sûr. Mais les biologistes, alors, qui s'occupent réellement du développement de la vie, sont encore plus intransigeants. Il y en a même qui disent que c'est impossible que la vie apparaisse ailleurs. Mais là, ils exagèrent. Voilà. Il faut une balance et ça sera à l'observation de décider.
D'accord. Alors, justement, là, moi, toujours par rapport aux élèves que j'ai été rencontrés au collège de Breval, c'est vrai qu'on parle d'OVNI des fois. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vu ça ». Alors moi, j'aurais posé la question « Croyez-vous aux OVNI ?» Et on écoute tout de suite leur réponse.
Ah bon,
je crois parce que moi personnellement j'en ai pas vu, mais plusieurs gens en ont vu. Tout le monde dit que c'est des Russes qui observent plusieurs choses, des expériences.
Oui, parce que ma mère elle en a vu un quand elle était petite. Ça ressemblait un petit peu à une soucoupe, elle m'a dit.
Ouais, j'y crois, sauf que j'en ai jamais vu. Ça se trouve qu'ils volent de galaxie en galaxie avec des ovnis ou peut-être avec d'autres objets.
Oui, avec ma famille, on est sorti une fois, on a pu en voir une dans le ciel.
Voilà, donc, alors, quelle serait votre réaction?
Ah ben là, vous m'avez eu tout à l'heure avec la première partie de l'interview de ces jeunes. Alors, je suis désolé, ces pauvres sont victimes de mauvais médias. De mauvais médias. Alors, si vous vous tombez dans les ovnis, ben, je penserais que vous êtes un peu parmi les mauvais médias. Bon, ça ne veut pas dire que je sois fermé à la possibilité d'OVNI. Physiquement, techniquement, d'après les lois de la nature, ça pourrait exister. Mais jusque maintenant, il n'y a rien eu de valable. Même la phrase « jusqu'à maintenant », pas demain, hein, jusqu'à maintenant, on n'a aucune indication scientifique sérieuse indiquant qu'un OVNI provienne d'une civilisation extraterrestre. Point.
Alors, justement, pourtant, il y a une psychose, notamment, de ces gens qui disent avoir vu des objets volants non identifiés. Alors, est-ce que c'est eux qui ont inventé ça pour se rendre, en fait, se rendre intelligent, enfin, je veux dire, pour faire un peu comme tout le monde, puisque un peu tout le monde fait ça? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité qu'ils ont pris une lanterne pour une vessie?
D'abord, c'est entretenu par les mauvais médias, ça fait vendre des bouquins débiles complètement. Et puis, il y a un désir profond des humains de penser que dans le cosmos, dans la voûte étoilée, dans le ciel étoilé, il y aurait d'autres êtres plus ou moins semblables à nous. C'est un désir fondamental des humains. Mais s'il n'est pas contrôlé sérieusement dans son étude, ça va loin, ça dérive.
On peut donner une anecdote. Il y a quelques années, il y a une sonde américaine qui a été perdue alors qu'elle allait se mettre en orbite autour de Mars. Et une certaine frange, en fait, de la population américaine, il y a même eu des journaux qui ont utilisé cette idée. En gros, ont émis l'hypothèse que la sonde avait été détruite par la NASA dans la mesure où elle avait vu des dinosaures qui couraient à la surface de Mars. Et il y a eu des journaux américains qui ont publié, en fait, cette nouvelle. Donc je pense que quelquefois, c'est vrai que sur le thème de la conspiration, on est capable d'aller très loin et certaines personnes, en fait, sont capables de rentrer complètement dans cette idée de conspiration et à la fin, plus aucun argument sérieux n'est capable de les atteindre.
D'accord. Alors, oui, je vois Monsieur Neumann qui voulait réagir. On va d'abord faire une pause musicale et puis on revient donc toujours sur ce sujet juste après pour la suite des questions. A tout de suite. Retour donc pour la seconde partie donc de cette émission consacrée à Sommes-nous seuls. Et on va restant sur le sujet extraterrestre. J'ai rencontré donc des élèves, comme je vous le disais tout à l'heure, du collège Lénénuphar à Breval. Et là, on va encore écouter une de leurs réponses. Je leur ai posé la question, si vous rencontrez un extraterrestre, quelle serait votre réaction?
Déjà, j'essaierai d'en savoir plus sur, sur lui, sur sa terrestre, comment se passe sur sa planète. Et puis, s'il a une drôle de réaction, s'il pointe son arme sur moi, comme on dit, j'aurai une mauvaise réaction.
J'essaierai un peu d'apprendre sa langue, j'essaierai de comprendre ce qu'il dit. J'aurai un petit peu peur, mais j'essaierai quand même de devenir amie avec lui ou elle, et pour faire un petit peu comme dans, par exemple, E.T.
Voilà, donc vous vouliez réagir
Bon, c'est ça, oui. S'ils en rencontrent un, ils essaient d'en savoir plus. Alors, la question d'armes, pourquoi ils auraient a priori des armes? Ça, c'est la culture vidéo, télévision. Pour les jeunes en particulier, les jeux, on s'attaque, on se tue et dans le virtuel. Et puis, ça finit par tuer 25 élèves dans une école en Amérique.
Ah, voilà. Bon. Très bien. Très belle réaction. Alors là, justement, la question que je voulais vous poser maintenant, c'est quels sont les moyens employés pour trouver des signaux extraterrestres?
Alors, les moyens. Bon, on n'imagine pas nécessairement que d'autres nous envoient des signaux intentionnels pour nous. Si c'est comme ça, c'est tant mieux. Mais une grosse civilisation, une grosse technologie doit émettre des ondes parasites, et nous on essaie de capter des ondes parasites, et pour l'instant, étant donné les propriétés des distances intersidérales qu'il faut parcourir, les meilleures ondes avec lesquelles il faut commencer avec notre technologie, ce sont les ondes radio, comme celles des micro-ondes, des ondes radio courtes, une dizaine de centimètres, 10 fois votre fréquence à vous, là, 100 mégas, c'est 100 mégas, ben, là, c'est un giga, etc. Ok, bon. Alors pour ça, ce sont les radios autonomes qui se présentent tout naturellement avec leur technologie qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, et les grands radiotélescopes. Bien. Mais alors le problème est considérable parce qu'on ne sait pas parmi les ondes radio en question sur quelle fréquence on pourrait recevoir des émissions. Alors la nature est telle qu'il y a 100 milliards de fréquences possibles. Bon, ici à Mantes-la-Jolie, il y a combien de fréquences FM? Une dizaine peut-être. Bon, mais là c'est
plus quand même.
Oui, ok, mais c'est pas 100 milliards. Alors, le gros problème, ça a été non seulement d'avoir des grands radiotélescopes, ça va, mais d'avoir des récepteurs qui étaient capables d'écouter simultanément le plus grand nombre possible de fréquences. Et quand on a commencé ça, le premier qui a fait ça, c'est un étudiant qui préparait sa thèse, il a demandé à son chef de se lancer là-dedans, il n'avait qu'un canal d'écoute. Donc, un canal d'écoute seulement. Et puis après, ça a progressé. Les radiosonomes avaient des instruments courants avec 1000 canaux d'écoute, mais c'était pas suffisant. Et là, il faut reconnaître que c'est la NASA qui a lancé l'opération majeure de se dire on veut 10 millions de canaux d'écoute simultanée. Alors, il y a eu des crédits importants qui ont été donnés par le gouvernement américain sur ça, public, connu de tout le monde. Il n'y a pas encore d'histoire de secret là-dedans. Et puis maintenant, bon, crédit coupé, donc en 93 par le Congrès américain, repris aussitôt par un institut privé, avec des fonds privés, qui marchent très bien, et puis développé aussi dans d'autres universités américaines, françaises, italiennes, etc. Et maintenant, on en est avec les progrès de la technologie, qui est basée essentiellement sur la technologie de l'informatique, à des systèmes qui sont capables d'écouter simultanément 1 milliard de canaux. Donc, progrès considérable. Et la technologie est telle que tous les 10 mois, la technologie double d'efficacité. Donc, on a un avenir rayonnant devant nous pour tenter de penser qu'on pourra finir par réussir.
Réussir à trouver des signaux extraterrestres. Oui, monsieur Le Sieur.
Oui, je voulais juste ajouter que, effectivement, la question de savoir comment, quoi essayer de détecter dans l'espace, c'est déjà la question primordiale qui se pose. Et puis, comme Jean Heidmann a travaillé pendant 40 ans dans ce domaine-là, il sait bien de quoi il retourne. Actuellement, on se pose un certain nombre de questions qui sont nouvelles. Et par exemple, on a eu comme idée l'idée de se dire ces gens-là pourraient également être capables, avec des technologies légèrement plus avancées que la nôtre, de fabriquer des énormes lasers. Et puis alors, ces lasers, c'est pareil que les ondes électromagnétiques, il y a moyen de les pulser aussi. Et donc, par conséquent, on pourrait prétendre arriver à envoyer des messages codés à l'aide de faisceaux de lumière, au lieu de les envoyer à l'aide de faisceaux d'ondes radio. Bien, jusqu'à présent, c'était resté simplement dans les cahiers, et puis actuellement, donc, on doit commencer à faire des recherches dans ce sens-là, en fait, si j'ai bien compris.
Ça a été lancé par les Soviétiques il y a au moins 30 ans avec le plus grand télescope optique du monde, celui du Caucase, dont le miroir fait 6 mètres de diamètre. Et puis le chercheur est tombé malade et est mort, et ça a été abandonné. Mais ça a été repris ces années-ci par les Russes. Oui, les Russes. Et maintenant, ça vient d'être pris par l'université de Harvard, avec des moyens technologiquement évolués comme ceux dont vous parliez à l'instant.
Très bien. Alors, donc voilà au niveau. Mais alors, il y a une question que je me pose quand même. C'est parce que vous parlez d'envoyer des signaux codés extraterrestres, enfin des signaux codés, pardon, de lumière et tout ça. Mais il faudrait se demander aussi, il faudrait peut-être prendre la manière la plus bénigne. Parce que je veux dire, s'il y a un extraterrestre qui reçoit ce message, ils n'ont peut-être pas une technologie aussi importante que la nôtre. Je ne sais pas.
Bon, ben si. Bon, d'accord. En fait, ça dépend énormément de la durée de vie de ces technologies avancées. S'ils vivent 100 ans comme la nôtre risque de le faire dans un proche futur, hein, de disparaître par sa sottise, en définitive, on a peu de chance. Mais s'il existe des technologies qui vivent 1 million d'années, là, les chances de réussir sont beaucoup plus grandes. Alors déjà sur Terre, on a l'exemple d'une technologie intelligente, qui est celle des bifaces en silex taillés faits par Homo erectus. Pendant 1 million d'années, ces gens-là se sont transmis la façon de faire des bifaces extraordinaires quand même. Donc, mais ils n'étaient pas capables d'émettre d'ondes radio. Donc une technologie extraterrestre du genre Homo erectus, zéro, on ne peut pas la détecter. Mais il y a peu de chances statistiquement que s'il y a des technologies avancées ailleurs, que l'on pourrait détecter, elles soient juste à notre niveau à nous. Si on les détecte, elles sont à des niveaux beaucoup plus avancés. Et à ce moment-là, on se lance dans la recherche de ce qu'on appelle des émissions parasites d'astrotechnologie à grande échelle. Des constructions gigantesques tenant tout un système planétaire, utilisant des énergies comparables à l'énergie rayonnée par leur étoile, etc. Donc ça devrait être détectable si ça existe.
Mmh. D'accord. Monsieur le Sieur, vous vouliez intervenir ?
Juste pour ajouter que, d'ailleurs, dans l'autre sens aussi, on fait des démarches, c'est-à-dire on recherche également des indices, non pas d'intelligence, mais des indices de vie tout court, ou bien alors simplement de lieux possiblement favorables. Alors par exemple, on va essayer de rechercher si on peut, à terme, parce que pour l'instant c'est encore un peu juste, mais on va essayer de rechercher si on est capable de détecter des planètes qui ressemblent à la Terre. Mmh. On va essayer de détecter si on peut trouver des planètes sur lesquelles on trouve de l'oxygène, etc. Et puis, dans le domaine d'ailleurs des ondes radio elles-mêmes, il faut dire que des gens qui seraient par exemple à notre niveau de capacité pourraient très bien être détectés, même si ils n'essayaient pas intentionnellement de nous contacter. Parce que jusqu'à une certaine distance, il faut bien dire que la Terre, l'activité de l'homme sur la Terre est détectable. Je ne sais plus, Jean Eggman serait peut-être capable de le dire, je ne sais plus jusqu'à quelle distance on pourrait détecter notre télévision, par exemple.
1000 années-lumière, à condition que les rayons soient allés là-bas. Donc il faudrait que la télévision ait existé depuis 1000 ans.
Bon, alors, ça, c'est il faudrait que la télévision existe depuis 1000 ans.
Technologiquement, on peut communiquer sur des distances interstellaires.
D'accord. Il reste 2 minutes, monsieur Hellman, vous vouliez dire quelque chose ?
Je ne sais plus. Ah oui, à propos de ces astrotechnologies très importantes, plus importantes que la nôtre, j'ai un projet fumant avec des Italiens qui s'occupent d'astrodynamique. Ça serait d'envoyer une sonde spatiale, ce sera un radiotélescope quelconque, en dehors du système solaire, à 20 fois la distance de Neptune et Pluton, donc nettement dans l'espace extrasolaire, pour le placer, cette espèce d'oculaire, au foyer gravitationnel de l'effet de lentille du Soleil. Le Soleil agit par sa gravitation comme une lentille. Donc on aurait à notre disposition un télescope avec un objectif de 1,5 million de kilomètres de diamètre, avec un oculaire là-bas, et avec ça on pourrait détailler des astrotechnologies sur d'autres planètes. Et même, je pense, enfin j'ai pas fait les calculs encore, mais je vais m'y mettre, on pourrait détecter l'infrarouge émis par des grosses villes comme Los Angeles ou Mexico. Donc, ça peut y aller là aussi.
Voilà, donc au sujet de la rubrique Sommes-nous seuls. Alors, on va terminer par un tour de table donc pour conclure cette émission. Donc, monsieur Lognonnet, si vous avez quelque chose à dire.
Je pense que pour tous ces problèmes de vie, finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que l'évolution finalement scientifique est un petit peu de comprendre si la vie existe, ça c'est un terme, quelque chose de très important, mais aussi si la vie a disparu, pourquoi elle a disparu. Et là-dedans, en fait, l'exploration planétaire est quelque chose qui est très important dans cette compréhension de la disparition de la vie, si toutefois elle a déjà existé ailleurs que sur Terre.
D'accord. Monsieur Jean-Marie Delbos, pour conclure cette émission.
Je voudrais préciser que le transport spatial peut être supporté de façon active par l'activité commerciale, hein, qui permet de financer largement ces programmes, et que par contre, elle a aussi pour objectif d'explorer l'univers, de permettre l'exploration de l'univers. Aujourd'hui, Aérospatiale travaille bien sûr sur l'amélioration de ce transport spatial dans le domaine des satellites, mais également sur des engins qui utiliseraient d'autres sources énergétique pour faire des voyages interplanétaires lointains.
Monsieur Jean Edman ?
Oui, rapidement. Alors, vous avez mené très très bien cette émission. Et alors, j'ai une crainte, c'est que ça ne soit diffusé que dans le périmètre de Mantes-la-Jolie. Si c'est comme ça, je souhaite qu'elle soit diffusée beaucoup plus.
Je souhaite que vous alliez plus loin.
Monsieur Lossien.
Jusqu'à 1000 années-lumière.
Voilà. Monsieur Lossien.
Oui, moi je trouve aussi que l'émission que vous avez faite là était intéressante. On a essayé d'apporter certains éléments. Hein. Je crois que la quête de l'homme par rapport à l'univers est loin d'être en perspective de s'arrêter, que heureusement l'homme va continuer à se poser beaucoup d'interrogations par rapport au cosmos, et il faut encourager tous ceux qui, toute leur vie, essaient de faire des recherches dans ces domaines-là, et en particulier dans le domaine de la recherche potentielle de vie intelligente ailleurs.
Oui, puis les jeunes, là, qu'on a entendu aussi, ça c'est bien.
Monsieur Minois.
Ben moi j'en veux terriblement à Jean Edman.
Ah bon ?
Mais ce n'est que par respect pour ses cheveux blancs que je ne lui vole pas dans les plumes, il m'a coupé l'herbe sous le pied, je voulais dire ce qu'il a dit.
Ah ben ça c'est
d'accord.
Bien.
Bon. Voilà donc, en ce qui concerne cette émission Sommes-nous seuls, c'était la rediffusion d'une émission qui a eu lieu il y a de 7 ans de cela sur une autre radio avant que je ne sois sur IDFM, où donc j'avais tous ces invités, à savoir que Jean Edman est décédé le 3 juillet 2001 en raison suite d'une opération bénigne, une opération chirurgicale bénigne, donc il est décédé, Dieu est son âme, et on pense beaucoup à lui puisqu'il y a beaucoup de travaux, comme il vient de l'expliquer, qui l'avaient en cours et qui malheureusement ne seront pas faits, en espérant que quelqu'un les reprenne. Merci d'avoir suivi cette émission À toi les étoiles. Vous allez maintenant retrouver l'émission Espace Jeune. Je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de mai pour une nouvelle émission d'À toi les étoiles. D'ici là, bon après-midi à l'écoute d'IDFM et bonne fin de vacances pour ceux qui y sont. Au revoir à tous.